France Culture.
Bonjour Philippe Mérieux.
Bonjour.
Alors après avoir tenté de définir la pédagogie qui vous porte, disons, aussi bien d'un point de vue théorique que pratique, c'est de politique qu'il va s'agir aujourd'hui, et plus exactement de votre expérience de la politique. Avec une première question, en forme peut-être de boutade, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de dire l'éducation est la mère de toutes les batailles. Est-ce que ça veut dire que l'école, et plus largement l'éducation et la pédagogie, sont un combat politique?
Oui, sans aucun doute. Alors après, est-ce que nous mettons nos actes en accord avec nos déclarations d'intention? C'est pas si sûr. L'éducation est la mère de toutes les batailles, mais d'une part, on la réduit trop souvent à la seule école, au détriment de l'éducation familiale, qui en France est très largement abandonnée, très peu travaillée dans les universités d'ailleurs, et très peu soutenue sur le plan social, et au détriment de l'éducation populaire, de ce qui se passe dans les loisirs, qui, à mes yeux, est tout à fait déterminant pour le développement d'un enfant.
Plus précisément, ensuite, est-ce que pédagogie ou éducation de gauche et de droite, ça a un sens?
Ça, je ne sais pas trop. Il m'est arrivé de me trouver en accord avec des personnalités qui se définissaient au centre ou à droite sur un certain nombre de points bien particuliers. Et j'ai le sentiment quand même qu'il y a, sinon une opposition, du moins un positionnement différent entre ceux qui considèrent qu'au fond, l'éducation, ça vaut pas le coup. Qui vaut mieux la répression, qui vaut mieux l'exclusion, qui vaut mieux la menace. Et ceux qui considèrent qu'il faut toujours tenter de chercher une solution par l'éducation, par la prévention, par l'accompagnement des personnes et par un regard positif que l'on porte sur elles. Alors on peut dire que les seconds sont plus à gauche que les premiers. C'est pas sûr au fond. Il faut probablement distinguer les postures des positions réelles des gens dans le travail quotidien. Il y a probablement des gens qui se disent à droite et qui ont des positions sur le terrain, qui sont des positions de confiance dans l'éducation. Mais sur le plan théorique, il me semble qu'il y a une vraie opposition entre ceux qui considèrent qu'au fond, les humains ne marchent qu'à la menace et ceux qui considèrent qu'il faut ennoblir les humains, comme disait Pestalozzi, pour leur permettre de grandir en émancipation et en solidarité.
En tout cas, vous, Philippe Mérieux, vous êtes toujours dit de gauche. Vous avez été engagé aux côtés du Parti Socialiste, puis d'Europe Écologie, qui est devenue Europe Écologie Les Verts. On vous a quitté dans l'épisode précédent enseignant, à tous les âges, à tous les niveaux. On vous retrouve aujourd'hui en politique. Vous auriez pu rester professeur, responsable pédagogique, mais vous avez choisi d'entrer, j'ai un peu envie de dire, dans l'arène politique. Qu'est-ce que vous alliez faire là ? Quelle était votre démarche ou votre objectif ?
C'est pas sûr que j'ai vraiment choisi. J'ai plutôt été choisi. Je suis arrivé à l'université par le biais du collège expérimental dont nous avons parlé lors de la précédente émission. À l'époque, les collèges expérimentaux ne pouvaient durer, ne pouvaient avoir leur autorisation d'expérimenter se poursuivre que si on testait les élèves tous les ans et si on prouvait que les élèves progressaient là au moins aussi bien que dans un collège entre guillemets normal. Et donc le collège dont j'étais l'animateur pédagogique était sous la tutelle de l'Université Lyon 2. Moi, je n'avais pas à l'époque de projet universitaire particulier, mais il se trouve que le professeur Avanzini m'a un jour repéré à la fin d'une réunion et m'a dit « Mais préparez donc une thèse, il me semble que vous avez des idées importantes à faire valoir, etc. » Et je suis entré comme ça à l'université, essentiellement parce que j'ai été identifié par quelqu'un. Alors une fois à l'université, je crois que c'est le recteur de l'Académie de Lyon qui, au moment de ce qu'on a appelé la concertation Bourdieu-Gros, avait besoin d'un animateur pour des débats et qui a proposé mon nom. J'ai accepté parce que au fond, ça me permettait de réconcilier un peu l'éducation nationale et l'éducation populaire. Et puis, on m'a proposé de siéger au Conseil supérieur des programmes. Ça a été une expérience à la fois riche, intéressante, éprouvante un peu aussi.
Ça, c'est quand Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale. Donc en 1989-90.
Oui, tout à fait, au moment de la loi d'orientation de Lionel Jospin. Ensuite, j'allais dire, j'ai mis un petit peu le doigt dans l'engrenage. on n'est pas nombreux chez les universitaires à être repérés comme étant des experts possibles. Les politiques viennent nous chercher, plus qu'on ne va les chercher. Et d'ailleurs, ce mot d'expert est un mot un peu mystérieux pour moi. Je me suis jamais senti expert d'autre chose que des questions d'apprentissage et de pédagogie au sens très, très concret du terme dont nous avons parlé lors de la précédente émission. Évidemment, je m'intéresse au fonctionnement des systèmes, mais je m'y intéressais pas directement. Donc, quand on vient me chercher pour me faire travailler sur le fonctionnement des systèmes, je me détourne un peu, d'une certaine manière, de mes travaux initiaux. Ça m'intéresse parce qu'on caresse toujours un petit peu le rêve de transformer les institutions pour les rendre plus tolérantes aux projets, aux idéaux que l'on porte.
Alors le « on » en question a-t-il été, d'abord Lionel Jospin, vous le disiez, mais ensuite a-t-il été Claude Allègre, qui est devenu ministre de l'Éducation nationale 1997-2000, et que vous avez rejoint, alors que vous avez rejoint comme expert, comme universitaire, comme intellectuel, comme conseiller, qu'est-ce que vous diriez ?
Ah non, sûrement pas conseiller. Conseiller, c'est un titre. Conseiller, c'est membre d'un cabinet. Moi, j'ai toujours refusé d'être membre d'un cabinet ministériel. Parce qu'un membre de cabinet travaille pour le ministre, il perd sa liberté de parole, il perd sa liberté de travail et de recherche. Moi, j'ai toujours souhaité garder ma liberté de parole et de travail.
Il y a des conseillers de l'ombre.
Comment ?
Il y a des conseillers
de l'ombre.
Oui,
il y a aussi des conseillers de l'ombre, mais je ne crois pas avoir été conseiller d'aucun ministre ni d'aucune personnalité politique importante. Non, quand Claude Allègre accède au ministère de l'Éducation nationale, je viens de publier un livre un peu grand public qui s'appelle « L'école ou la guerre civile ».
Un titre accrocheur, hein ?
Oui, c'est un titre accrocheur et c'est un titre que je ne renie pas aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il mettait le doigt déjà sur la fonction de l'école en termes de tri social, la fonction de l'école en termes de formation à une solidarité, une citoyenneté solidaire, et la fonction de l'école en tant qu'accès de toutes et tous dans la scolarité obligatoire à un tronc commun de savoir. Donc je ne renie pas ce livre, même s'il y a des expressions qui sont un peu grand public et qui ont pu choquer tel et tel collègue universitaire. Donc je viens de publier ce livre, et un jour, effectivement, un conseiller de Claude Allègre me téléphone en me disant que le ministre avait lu ce livre, ça l'avait intéressé, et que il serait content de m'interroger sur la question des lycées, et qu'il consultait en même temps quelqu'un d'autre, Edgar Morin, et qu'il souhaitait faire en sorte qu'Edgar Morin et moi-même prenions en charge une consultation sur les savoirs à enseigner dans les lycées. J'ai beaucoup hésité à venir y aller, je ne connaissais pas du tout Claude Allègre, il était au tout début de son mandat, un personnage un peu mystérieux pour moi. J'ai posé un certain nombre de conditions très simples, j'ai envie de travailler, mais je travaillerai comme je le souhaite, et d'une manière indépendante, en dehors du cabinet, en dehors de ce qu'on appelle la DGESCO, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, avec une équipe que je choisirai, et avec des modalités dont nous serons les seuls à pouvoir décider. Il l'a accepté tout de suite, et nous avons lancé ce qui s'est appelé la grande consultation des lycées de 98, qui a été un moment, pour moi, très important, puisqu'on a interrogé tous les lycéens par le biais d'un questionnaire, par le biais de petits groupes de travail. On a dans chaque académie collecté la parole de tous les lycéens. Et on a produit un rapport de synthèse qui, je crois, était pas mauvais, qui même proposait des choses qui me paraissent toujours d'actualité aujourd'hui, mais dont on ne peut pas dire qu'il soit resté grand-chose dans les décisions ministérielles. Il est resté deux ou trois choses. Ce qui est resté le plus visible, c'est ce qu'on a appelé les travaux personnels encadrés.
Les fameux TPE.
Les TPE. Au lycée, nous proposions que les élèves, seuls ou par petits groupes, préparent un dossier sur un sujet de leur choix, plutôt transdisciplinaire ou interdisciplinaire, et le défendent devant un jury. Quand je rencontre aujourd'hui des lycéens de l'époque des TPE, ils me disent souvent que c'est la seule chose dont ils se souviennent dans leur lycée. Ce qui, je trouve, est un beau compliment pour l'inventeur des TPE. Voilà, on a gardé les TPE, on a gardé aussi les conseils de la vie lycéenne, on a gardé les ateliers d'expression artistique dans les lycées d'enseignement professionnel. Mais les grandes orientations structurantes que nous proposions n'ont pas été réellement ni examinées, ni a fortiori mises en œuvre. Donc on a, d'une certaine manière, expérimenté ce qui s'est passé par la suite avec ce qu'on a appelé la consultation Tello, par exemple, ou d'autres consultations, c'est-à-dire qu'on a confié à un groupe de gens qui consultent un certain nombre d'autres une réflexion sur l'éducation, et puis que les décisions politiques derrière sont toujours des décisions à plus court terme qui se construisent avec une forme d'improvisation et qui ne rendent pas compte de ce projet à moyen et à long terme que ces consultations, que ces missions peuvent avoir esquissé.
Quelles ont été vos relations avec le ministre de l'époque, Claude Allègre, aussi bien pendant cette consultation et surtout après, puisque vous avez l'air, Philippe Mérieux, d'en garder plutôt une forme de déception, voire d'amertume que...
Non, je garde un très très bon souvenir de la consultation elle-même, hein, ce qui s'est passé chez les lycéens, y compris quand nous avons fait venir les lycéens d'outre-mer, ces moments de restitution et de confrontation, y compris avec des opposants à la réforme des lycées, ces polémiques dans la presse, tout ça, j'en garde un très très bon souvenir. C'était un moment de débat sur l'éducation, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps, et comme j'aimerais qu'il y en ait plus souvent, alors qu'il se focalisait sur quelques points précis. Je me souviens le point qui a focalisé l'intérêt de tous les journalistes et de tous les opposants, c'est que dans le questionnaire que nous adressions aux lycéens, il y avait une question qui était « Vous êtes-vous ennuyé en classe ?» Et cette question, elle entraînait d'autres questions, c'était à quelle occasion et qu'est-ce que vous proposeriez pour ne plus vous ennuyer en classe. Mais cette question de l'ennui a suscité une espèce de colère générale d'un certain nombre d'intellectuels français, disant « Non mais c'est pas possible de demander aux élèves s'ils s'ennuient en classe, c'est un scandale ». C'était pas du tout notre intention. On demandait aux élèves de réfléchir sur ce qui pouvait les amener à s'impliquer plus dans leur travail en classe. Alors mes rapports avec Claude Allègre étaient quand même très particuliers. Claude Allègre, j'en garde le souvenir d'une personne qui était plus un personnage de comédia dell'arte, un matamor, c'était matamor.
Dès le début, c'était pas vraiment mis la communauté des enseignants dans la poche, puisque c'est resté dans les mémoires. Hein, sa phrase malheureuse sur la nécessité de dégraisser le mammouth.
La phrase n'était pas de lui, d'ailleurs. Il l'avait empruntée à un de ses cadres. Mais moi, c'est
ça vous a porté préjudice ?
Oui, bien sûr. On aurait été bien plus à l'aise d'effectuer cette consultation avec un ministre comme Lionel Jospin, par exemple. Et d'ailleurs,
c'était le ministre de Lionel Jospin, hein.
Non, absolument, mais que Lionel Jospin a limogé. Hein. Mais à travers son conseiller éducation, le premier ministre nous a fait savoir qu'il désapprouvait quand même un certain nombre de comportements du ministre. Ça nous a un peu mis en difficulté. Mais c'est pas cela que je retiens surtout d'abord. Ce que je retiens surtout d'abord, c'est le télescopage entre une réflexion de fond qui s'appuie sur un mouvement global, sur de vrais débats, avec une temporalité politique à court terme qui prend des décisions brutales, partielles et indépendamment des perspectives globales que l'on a tracées.
Mais vous n'étiez pas, Philippe Mérieux, suffisamment déçu par cette expérience pour arrêter tout engagement politique, puisque vous avez accepté de reprendre du service pour le nouveau ministre Jacques Lang, qui a succédé en 2000 à Claude Allègre à l'Éducation nationale. Vous avez réfléchi à la formation des maîtres et au collège, si je ne m'abuse.
Oui, bien sûr. Mon compagnonnage avec Jacques Lang était bien plus ancien, puisque j'avais été très proche au moment où il était maire de Blois, et j'avais été chargé de travailler avec lui à la politique scolaire de la ville de Blois. Et donc nous nous connaissions très bien. Il a remplacé Claude Allègre avec comme mission... Alors on disait entre nous de pisser sur les braises, c'était l'expression qui faisait florès à l'époque. Jacques Lang est un homme qui cherche le consensus, c'est quelqu'un qui a essayé de mettre en place toute une série d'assez belles choses à travers en particulier l'éducation artistique et culturelle, qui sur les autres chantiers, à mon avis, a un peu tâtonné parce que il a éprouvé la difficulté du consensus, justement, sur le collège, par exemple, qui est quelque chose qui pose vraiment problème. Hein. Le collège a jamais été créé en France. Quand on demande aux gens qui a créé l'école primaire, tout le monde dit Jules Ferry. Qui a créé le lycée, tout le monde dit Napoléon. Qui a créé le collège, certains disent Abi, oui. La France a jamais dit très clairement qu'est-ce qu'elle voulait faire de son collège. Est-ce que c'était un prolongement de l'école primaire pendant le temps de la scolarité obligatoire? Est-ce que c'était une anticipation du lycée où on préparait déjà l'orientation en seconde? On n'a jamais vraiment tranché sur le collège. Et donc, Jacques Lang a essayé d'avancer sur cette question, qui est une question très vive, très complexe, avec des enjeux syndicaux, des enjeux sociétaux, des enjeux au niveau des parents aussi, qui sont extrêmement difficiles à décrypter. Voilà. Mais oui, quand Jacques Lang me demandait de l'aider sur tel ou tel chantier, je le faisais bien volontiers, parce que je considère que si on m'interpelle, si on me demande, j'ai pas à refuser d'apporter un point de vue au politique qui lui prendra la décision.
C'est aussi Jacques Lang qui vous nomme directeur de l'Institut universitaire de formation des maîtres à Lyon. Ensuite, dans votre expérience ou relation même plus large au politique, Philippe Mérieux, il y a plusieurs choses parce que cette connivence qu'il y a eu avec certains responsables politiques vous a été reprochée par vos pairs, par des compagnons de route du militantisme pédagogique, par certains amis enseignants, alors évidemment en particulier Claude Allègre, même sans doute beaucoup plus que Jacques Lang. Mais vous avez eu de votre côté des relations intéressantes parce que parfois ça a été avec, dans le cadre de Claude Allègre, de Jacques Lang, de Lionel Jospin. Parfois ça a été contre. Et puis il y a des choses au milieu. Alors les au milieu, c'est par exemple Xavier Darcos. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire quand Luc Ferry était ministre de l'Éducation nationale, en 2003, vous avez deux visions radicalement opposées de l'éducation nationale, de la politique scolaire et éducative en France. Et vous voilà à écrire un livre avec Xavier Darcos en 2003 qui s'appelle « Deux voix pour une école ». Donc là, je dis que c'est un peu au milieu parce que c'est ni avec ni contre.
C'est une belle expérience. C'est une très belle expérience parce que j'ai peu d'idées en commun avec Xavier Darcos sur les questions de politique générale et de politique éducative. Mais c'est quelqu'un d'une grande culture et c'est quelqu'un qui aime débattre. Et ça, c'est très important pour la démocratie. Et je pense que nous avons apprécié, Xavier Darcos et moi, de pouvoir nous exprimer l'un face à l'autre et d'aller jusqu'au bout de nos arguments et de mettre nos arguments devant l'opinion publique. Voilà, alors c'est quelque chose qui s'est en réalité très mal fini, puisque Jean-Pierre Raffarin, qui était Premier ministre, est intervenu pour empêcher la publication du livre, que celui-ci a été retardé, etc., etc., qu'il a considéré que Xavier Darcos avait fait une erreur en s'engageant sur cette interlocution avec moi et qu'il avait doublé en quelque sorte Luc Ferry, qui lui-même intervenait sur ces questions éducatives. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Ce livre n'a pas eu beaucoup de succès, mais pour moi, il a été une expérience extrêmement précieuse de mise à plat des choix politiques que l'on peut faire en matière éducative. Et je pense qu'il n'y en a pas tellement des expériences comme celle-là. Il devrait y en avoir plus. Il y a des affrontements qui sont souvent des affrontements de surface ou des affrontements de fond comme sur l'école privée, école publique, mais des affrontements sur la vision de l'éducation que l'on porte et ce qu'on voudrait en faire. Et disent très clairement, voilà les choix possibles, et qui s'adressent aux citoyens d'une manière très claire. Et je crois qu'il n'y en a pas suffisamment, et en éducation en particulier, il n'y en a pas beaucoup.
Autre expérience intéressante que vous avez eue en matière politique, alors cette fois pas avec un ministre de l'Éducation nationale à proprement parler, Philippe Mérieux, mais c'est votre mandat de vice-président de la région Rhône-Alpes délégué à la formation tout au long de la vie entre 2010 et 2015. Donc là, une activité, voire une action politique directe.
Oui, et puis extrêmement intéressante pour moi. J'avais accepté de partir sur une liste écologiste, parce que l'écologie fait partie aussi de mes valeurs. Avec l'éducation, ce sont les deux questions centrales qui président à l'avenir du monde. Et j'ai été donc vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie. C'est un chantier très compliqué. À l'époque, je crois que le terme est plus utilisé aujourd'hui, les régions étaient chargées de ce qu'on appelait la formation des publics résiduels. parce que la formation des gens qui sont en entreprise, elle est assurée par leur entreprise. Dans l'État, c'est l'État. La formation des gens qui sont au chômage dans des conditions normales, ils ont déjà travaillé, est assurée par Pôle emploi et l'État. Pôle emploi aujourd'hui, France Travail. Il reste un certain nombre de gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont pas assez cotisé au chômage, qui débarquent, des jeunes qui ont décroché de l'école et qui ne savent pas que faire. Tous ces publics-là, qui ne sont pas pris ni par l'entreprise, ni par France Travail, sont confiés aux régions. C'est donc des publics en grande errance, en grande difficulté. Et moi, ça m'a passionné, même si ça a été très compliqué, très difficile, parce que c'est des questions extrêmement techniques. Mais j'ai éprouvé beaucoup d'intérêt à faire se rencontrer ce que j'appellerais les problèmes de mécanique institutionnelle. Hein, comment on fait pour faire de la VAE, validation de l'acquis de l'expérience, en jouant sur le quadripartisme avec les organisations syndicales, etc. Est-ce qu'on les fait par secteur, ceci, et tous les problèmes de mécanique avec les problèmes de fond. La VAE, pourquoi c'est important la VAE? Parce que le diplôme n'est pas la seule manière de reconnaître une compétence chez quelqu'un. Parce que il faut reconnaître, et ça faisait partie de mes projets, de mes convictions, il faut reconnaître que certains itinéraires sont tout à fait légitimes et permettent d'accéder à des qualifications qui sont au niveau de diplôme important. Donc, faire se rencontrer le cambouis institutionnel avec les idéaux pédagogiques, c'était un challenge et ça m'a passionné.
Vous vous êtes senti utile, particulièrement utile à ce moment-là, ou en accord avec vos convictions?
On n'est jamais complètement en accord avec ses convictions, parce que quand on est élu, on est tributaire...
Il y a la réalité, là encore, c'est
ça ? Du budget. Et donc, on aimerait faire des tas de choses, et le budget n'est pas toujours là pour permettre de le faire. Moi, j'ai beaucoup insisté en particulier sur ce qu'on devait offrir aux jeunes décrocheurs qui étaient en errance. Je me suis beaucoup intéressé à cette question, aux jeunes qu'on appelle les invisibles, ceux qu'on ne sait même pas qu'ils existent, parce que ils sont pas à la Sécu, parce que ils sont pas à la CMU, ils sont nulle part, et qu'il faut aller les chercher, parce qu'ils viennent pas, ils se présentent nulle part, qu'ils squattent quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va vers eux pour leur proposer de se réintégrer? C'est à la fois passionnant et difficile. Et un peu frustrant, parce qu'on peut pas aller jusqu'au bout, toujours, de ce qu'on voudrait faire. Mais c'est très formateur. Et moi, je garde un très bon souvenir de cela. Alors après, les alternances politiques, là aussi, sont telles que la plupart des dispositifs que nous avions mis en place à ce moment-là ont été détricotés par la majorité suivante. Et ça, c'est un peu décourageant.
Alors, je reprends le fil de ce parcours étonnant. Je disais que vous aviez commencé avec, et puis progressivement, on vous a vu être devenu plutôt opposant, aller contre, notamment quand Jean-Michel Blanquer a été nommé ministre de l'Éducation nationale en 2017. Là, vous êtes devenu vraiment comme un opposant politique. Je pense notamment à plusieurs tribunes, mais à une tribune qui a fait beaucoup de bruit, parce qu'elle était signée par des personnalités, des intellectuels avec lesquels vous n'aviez pas toujours été en accord, d'ailleurs, Philippe Mérieux, contre la semaine de 4 jours, cette fameuse tribune dans le Figaro du 11 octobre 2017, signée avec Antoine Compagnon, Boris Cyrulnik, Jacques Julliard, Pierre Nora, Antoine Pro. Et puis évidemment, vous avez critiqué un certain nombre de réformes, de politiques mises en place par Jean-Michel Blanquer. Quel a été le rapport à cette politique pour vous qui vous a mené à devenir ou conduit à entrer en opposition, j'ai envie de dire?
D'abord, on peut dire que c'est Jean-Michel Blanquer qui s'est construit contre les pédagogues, puisque ses premières déclarations ont d'emblée été sauver l'école du pédagogisme, de ceux qui ont sacrifié la culture pour déifier les pulsions animales des enfants, etc., etc. Je caricature à peine, vous regarderez les unes des hebdomadaires de l'époque, c'était bien cela. Et donc Jean-Michel Blanquer s'est posé clairement en restaurateur de l'autorité du maître, en restaurateur de la méthode syllabique contre toutes les errances réelles ou supposées de la méthode globale, en restaurateur de la culture contre tous ceux qui auraient été amenés à la dénaturer, etc., etc. Et il a mis en place toute une politique, en particulier en nommant un conseil scientifique de l'éducation nationale, qui pour moi ressemblait quand même de très fortement à une caporalisation des enseignants.
Caporalisation.
Oui, il s'agissait clairement de dire aux enseignants, votre liberté pédagogique, oui, vous en avez encore un peu, mais globalement, nous savons ce que vous devez faire exactement au moment où vous devez le faire. On va vous donner des protocoles, on va vous donner des méthodes que vous devez appliquer à la lettre. Et voilà. Et puis Jean-Michel Blanquer met en avant, bien sûr, les évaluations. Et il embraye ce grand mouvement qui avait commencé dans les années 2000 avec les enquêtes PISA, qui consiste à démultiplier en permanence les évaluations. Évaluations qui ne portent que sur le français et les maths. D'ailleurs, on supprime toutes les formations d'enseignants qui ne portent pas sur le français et les maths. Évaluations qui sont particulièrement discutables sur le plan de leur signification pédagogique. On aurait parfaitement pu les remplacer par une évaluation sur une population témoin. Et qui mettent les enseignants dans des situations, pour moi, totalement insupportables, que nos collègues américains décrivent très bien, d'ailleurs, qu'ils appellent « the teaching by the test », hein, aux États-Unis, où les évaluations des enseignants sont très nombreuses depuis très longtemps. Nos collègues nous disent maintenant, on n'enseigne plus que pour apprendre à répondre aux tests. Bon, voilà. Donc, si il y a plus dans les tests d'éducation artistique, ben on fait plus d'éducation artistique. D'ailleurs, on peut peut-être même l'externaliser à l'extérieur de l'école. Bon, voilà, l'histoire, la géographie, tout ça, c'est pas testé, donc on s'en occupe pas. Teaching by the test, c'est une espèce de réduction de l'élève à un appareil à répondre à des QCM qui est à mes yeux très contre-productif sur l'efficacité des apprentissages eux-mêmes. Quand il faudrait mobiliser les élèves sur ces apprentissages par ce qui leur donne du sens, on les transforme en des machines à cocher des cases. Et ça, pour moi, c'est une erreur pédagogique majeure. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion de le dire, je me suis expliqué une ou deux fois avec Jean-Michel Blanquer, mais contrairement à Xavier Darcos, avec qui on pouvait avoir des discussions parce que c'était un homme de dialogue, avec Jean-Michel Blanquer, c'était très difficile.
Est-ce qu'au final, Philippe Mérieux, vous avez préféré conseiller des politiques, même si vous n'aviez pas de rôle de conseiller?
Non, non.
Est-ce que vous avez préféré conseiller des politiques ou est-ce que vous avez préféré vous opposer au pouvoir public?
Je ne sais pas, ni l'un ni l'autre, parce que c'est pas en termes de...
Ou agir, hein.
Vaut-il mieux s'opposer ou vaut-il mieux soutenir? C'est en termes de qu'est-ce qu'on doit pousser? Dans quel sens il faut que les choses puissent aller, se concrétiser? Et je pense que là-dessus, j'ai pu, à un moment donné, avec tâtonner un petit peu, pousser dans le sens que je croyais juste. Par exemple, je revendique les travaux personnels encadrés. Je trouve que c'était une bonne avancée qui a été détricotée par la suite, mais c'était une très bonne avancée. Je revendique l'opposition à la politique de Jean-Michel Blanquer, mais pas au nom du fait qu'il faut s'opposer ou soutenir, au nom du fait que les orientations me paraissent dans un cas des orientations qui vont dans le bon sens et dans un autre cas qui me paraissent mettre en péril le service public d'éducation.
En tout cas, ce qu'on entend aussi, c'est que dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez pas perdu votre énergie et que vous n'avez pas peur de la bataille. Et pourtant, des batailles, il y en a eu, vous en avez connu, et ça sera l'objet et le sujet de l'épisode suivant, l'épisode 4, les batailles scolaires. À demain et merci beaucoup.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Philippe Mérieux, réalisation Manouchak Fachahi. Prise de son Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.